travailleuses, travailleurs, camarades et amis. Il y a une semaine, Merkel et Sarkozy nous ont expliqué qu'ils avaient pris des décisions historiques, des décisions qui s'imposaient, et qu'ils avaient sauvé la Grèce, l'euro, si ce n'est le monde entier. Eh bien, c'est un sauvetage qui n'aura pas tenu 8 jours. Les marchés financiers, c'est-à-dire les grandes banques, les compagnies d'assurance et les fonds de placement, avaient été rassurés. Avec la mise en place du fonds de 1 000 milliards d'euros de garantie, les banquiers spéculateurs avaient reçu l'assurance que les États s'engageraient à payer si jamais ils faisaient des pertes. Les banquiers avaient reçu la bénédiction des États, et mieux encore, leur soutien sonnant et trébuchant. Mais il a suffi que Papandreou, le premier ministre grec, annonce l'organisation de référendums sur les mesures décidées dans ce dernier plan pour que, patatras, les bourses qui avaient grimpé se remettent à plonger. Et depuis hier, tous les dirigeants européens, de Sarkozy à Merkel, en passant par Berlusconi, défilent pour traiter Papandreou d'irresponsable, pour l'accuser de jouer avec le feu. Ils avaient tout fait pour rassurer les marchés financiers et voilà que Papandreou les affole avec une histoire de référendum. Alors, ils sont bien pour demander l'avis aux populations, nous disent-ils, mais à condition que cela se fasse au bon moment et que la bonne question soit posée, de façon à être sûr que ce soit la bonne réponse. Parce que leur démocratie, figurez-vous, eh bien, elle a des limites. Et ce sont les limites que les banquiers ont fixées. Et souvenez-vous, ces mêmes banquiers, eh bien, ils étaient présents en personne autour de la table de discussion avec Sarkozy, Merkel et Lagarde lors du dernier sommet européen. Ils ont d'ailleurs discuté du moindre détail, et c'est même à cause d'eux que la réunion s'est prolongée jusqu'à 4 heures du matin. Oui, tout s'était fait avec l'accord des financiers. Et c'était bien ça l'essentiel pour Sarkozy et Merkel. Et leur colère et leur surprise face à l'initiative de Papandreou montrent qu'ils n'ont jamais imaginé demander l'avis au peuple. Pour eux, il est évident que les plans d'austérité ne se discutent pas, que ça s'impose à coups de trique. Eh bien, qu'on se le tienne pour dit. Si nous voulons avoir notre mot à dire, il ne faudra pas se contenter des pseudo-rendez-vous démocratiques qu'ils veulent bien nous concocter, mais le faire par nous-mêmes, par nos propres moyens, en prenant la parole par les manifestations et par les grèves. Ce référendum est un coup politique pour Papandreou. Jusque-là, il ne s'est guère soucié de la vie de la population grecque, quand bien même il y a eu depuis un an et demi de nombreuses manifestations et même plusieurs grèves générales. Et à chaque fois, les manifestants n'ont eu droit qu'à des coups de matraque. Autant dire qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de ce subi intérêt de Papandreou pour ce que pensent les classes populaires. Sous la pression des financiers, de l'Europe, du FMI, Papandreou a imposé les premiers plans d'austérité en bon petit soldat. Mais ce coup-ci, pour imposer une nouvelle cure de rigueur, Papandreou veut s'arranger pour avoir la caution d'un référendum. Si ce référendum a lieu, il sera de toute façon un chantage du genre « soit vous votez oui au licenciement, aux baisses de salaire, aux baisses de retraite, aux privatisations, soit vous votez non, et alors c'est la faillite totale du pays ». Et comme le disait hier une manifestante grecque, on va nous demander de choisir la couleur de la corde avec laquelle on pendra. Alors, ce que je souhaite, c'est que les travailleurs, les chômeurs, les retraités grecs continuent leur combat. Et ils ont en face d'eux, non seulement Papandreou et les capitalistes grecs, qui ont sauvé leur peau dans cette crise, qui ont sauvé leur fortune et qui continuent même de pavaner avec leurs yachts et leurs voitures de luxe. mais ils ont aussi contre eux la Sainte Alliance des banquiers et des dirigeants politiques du monde entier, qui ne savent que taper sur les peuples. Et s'ils tapent aujourd'hui sur le peuple grec, ce n'est qu'un début, et notre tour viendra. Alors, nous ne pouvons qu'être solidaires des travailleurs grecs qui aujourd'hui se battent. Depuis hier, la grande question posée par tous les journalistes et par tous les commentateurs politiques, c'est: faut-il que la Grèce sorte de l'euro? Eh bien, soyons-en convaincus. Si la Grèce sort de l'euro, la crise continuera et elle s'aggravera. La crise s'aggravera parce que la spéculation continue et qu'aucun gouvernement ne veut la combattre. Après la Grèce, ce sera sur l'Italie que les banquiers vautours se jetteront. Et après l'Italie, ce sera un autre tour. Les politiciens rendent la population grecque responsable de la crise actuelle. C'est abject et stupide. La crise actuelle n'a pas éclaté en Grèce. Et l'endettement des États concerne le monde entier. Alors cette crise, eh bien, c'est une crise profonde et grave. Mais c'est une crise de toute l'économie capitaliste. Alors, la seule vraie question, c'est comment faire pour empêcher les banquiers de nuire? Mais cette question, aucun chef d'État ne veut la poser parce qu'ils sont tous à plat ventre devant les capitalistes de la finance et les capitalistes de l'industrie. Ce n'est pas d'aujourd'hui que les banques sont gâtées. Cela fait 3 ans qu'elles sont inondées de milliards d'argent public. Mais à quoi cela a-t-il servi? Eh bien, à rien. Pire même, c'est de l'argent qui a fini par nuire à toute l'économie. Parce que c'est de l'argent qui a été dilapidé dans les grandes fortunes et qui s'est retrouvé placé dans les opérations financières, c'est-à-dire dans la spéculation. Eh bien, si on avait jeté cet argent par les fenêtres, il aurait été mieux utilisé. Et aujourd'hui, les chefs d'État européens recommencent. En décidant d'aider les banques à se recapitaliser, en leur réservant des milliards de garanties, ce sont encore des milliards de cadeaux que l'on fait aux banques. Alors que les grandes banques continuent de spéculer au vu et au su de tous, qu'elles continuent de verser des dividendes faramineux, de verser des bonus fous à leurs traders, alors que tout le monde sait que les banquiers ne font même pas leur travail, et même les petits patrons s'en plaignent parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir les prêts qu'ils veulent. La course effrénée des banques au profit, la spéculation sont catastrophiques pour la société. Et pour l'arrêter, il ne faut pas compter sur les dirigeants, ce sont les serviteurs des plus riches et des banquiers, et ils ne feront rien contre eux. On ne l'arrêtera que si cela devient l'objectif du mouvement ouvrier, quand il retrouvera la combativité et la conscience d'avoir à combattre le capitalisme lui-même. Le système capitaliste, c'est la loi de la jungle, la course individuelle au profit privé, la concurrence, le chacun pour soi. C'est une économie qui engendre l'irresponsabilité sociale de ceux qui la dirigent. Prenez la banque Dexia, qui a trompé des dizaines, si ce n'est des centaines de collectivités, en leur faisant du crédit revolving. Bien aujourd'hui, l'État doit non seulement éponger les pertes de la banque Dexia, mais ils se retrouvent aussi avec des centaines de villes incapables de faire face à leurs dettes qui ont explosé. Et toute l'économie capitaliste est comme ça. C'est le profit privé à court terme avant tout, et après moi le déluge. Alors, la crise et la spéculation sont dans les gènes même du capitalisme. Alors, sauf à supprimer le capitalisme, on ne peut pas empêcher les crises. Cette crise, eh bien, on peut dire que les classes populaires l'ont payée. Et elles continuent de la payer, avec ce qu'elles ont de plus cher, avec leur emploi, avec leur salaire, avec leur retraite. 8 200 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté, avec moins de 954 euros par mois. Mais comment pourrait-il en être autrement? Avec les centaines de milliers de travailleurs qui ont été d'abord plongés dans le chômage, puis dans les minima sociaux. Et comment pourrait-il en être autrement? Avec les salaires et les pensions de retraite qui ne suivent pas le coût de la vie. Quel est le salaire qui a suivi la flambée des prix de l'immobilier, l'augmentation du prix du gaz? Quelle est la pension de retraite qui a augmenté au rythme des mutuelles, des assurances? Et même se soigner coûte de plus en plus cher. Entre le déremboursement des médicaments, les franchises médicales, les dépassements d'honoraires, combien d'entre nous hésitent avant d'aller chez le dentiste ou avant de faire changer sa paire de lunettes? Et combien d'entre nous renoncent même à acheter ce que l'on appelle maintenant les médicaments de confort? Et puis, pour la jeunesse, ces 3 années de crise ont été des années perdues. Ce sont des centaines de milliers de jeunes, y compris diplômés, qui n'ont pas trouvé de travail et qui n'en trouvent toujours pas. Et ce n'est pas faute d'envoyer des CV, d'accepter même les stages bidons, de faire des petits boulots en intérim. Sauf pour une toute petite minorité, la jeunesse travailleuse est obligée de galérer, parfois pendant des années, avant de trouver un vrai emploi. À cela va s'ajouter le nouveau plan d'austérité que nous concocte aujourd'hui le gouvernement Sarkozy-Fillon. Or, ils auraient peut-être aimé pouvoir le repousser à après les élections, mais la crise du capitalisme se moque bien du calendrier électoral qui rythme la vie des politiciens professionnels. Alors, on commence à entendre parler de nouvelles réductions des budgets des services publics, de baisses de rémunération dans la fonction publique et surtout, ce qui fait la une de la presse, d'une augmentation de la TVA. La TVA est l'impôt le plus injuste, car il fait payer au même tarif le smicard, le RMIste, le milliardaire. Et c'est pourtant avec cet impôt injuste que l'État remplit près de la moitié de ses caisses. Il rapporte quasiment 3 fois plus que l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Et c'est cet impôt que le gouvernement envisage d'augmenter. Oh, Sarkozy l'a bien dit, il est contre une hausse généralisée de la TVA. Et il s'est même payé le culot de dire que c'était trop injuste. Mais il n'a pas exclu une hausse partielle de la TVA. Il n'a pas exclu la création d'un taux intermédiaire qui toucherait ce qui est actuellement taxé à 5,5%, la restauration, mais aussi tous les produits alimentaires. Faire payer la population pour financer les banquiers, voilà à quoi se résument les annonces officielles et officieuses de ces dernières semaines. Pendant ces 3 années de crise, les États ont protégé les banquiers. Ils ont protégé les industriels. Les grands groupes industriels ont été aidés à coups de milliards. Les dividendes des actionnaires ont été garantis par des subventions diverses et variées de l'État. Et les plus fortunés, vous le savez, ils ont été protégés avec le fameux bouclier fiscal. C'est-à-dire que pendant ces 3 années de crise, le gouvernement a fait de l'assistanat en grand pour les capitalistes. Et après, ils nous diront qu'il faut qu'on rembourse cet argent. C'est pour ce gâchis innommable qu'il faudrait accepter de réduire le nombre d'instituteurs, d'enseignants, accepter de réduire le personnel hospitalier, fermer des bureaux de poste. C'est pour ça qu'il faudrait faire des sacrifices. Le gouvernement Sarkozy-Fillon fait un chantage quasi permanent en prétendant qu'il est du devoir de chaque citoyen de contribuer au remboursement de cette dette. Eh bien, c'est un chantage grossier. Aucun travailleur, aucun chômeur, aucun retraité n'a touché un centime des milliards qui ont été empruntés auprès des banquiers. Les travailleurs, ils en ont des dettes. Qui parmi nous n'a pas eu besoin de s'endetter pour acheter une voiture ou pour acheter un logement? Il faut même parfois s'endetter pour se soigner. Et on est bien obligé de rembourser. Cela nous arrive parfois d'aider un voisin ou un membre de sa famille. Mais pourquoi devrait-on payer pour la dette du patronat, pour la dette des capitalistes? Alors non, les travailleurs doivent rejeter tout appel au sacrifice de ceux qui dirigent cette société et qui la dirigent si mal. Quand bien même on nous ressort cette dette du matin au soir, les travailleurs n'en sont pas redevables. Cette dette, c'est la dette de la bourgeoisie, c'est à elle de payer. de la crise. Le grand patronat mène la lutte de classe avec une violence redoublée. Confrontés à cette crise, les capitalistes compensent leurs pertes ou le ralentissement de leurs affaires en aggravant l'exploitation. Ils augmentent les cadences, ils réduisent la masse salariale, ils licencient. Et tous les grands groupes procèdent de la même façon. Et même s'ils font de l'argent, même s'ils font beaucoup d'argent, c'est le cas, par exemple, du groupe Peugeot-Citroën. Il ne lui a pas suffi de battre un record de vente en 2010 et de faire plus d'un milliard de bénéfices. Il ne lui a pas suffi d'enrichir la famille Peugeot de 2 millions supplémentaires chaque jour. Il lui en faut toujours plus. La direction de ce trust multimilliardaire vient donc d'annoncer la suppression de 6 000 emplois en Europe et de 800 postes d'intérimaires, rien qu'en France. Récemment, Varin, le PDG du groupe, se vantait que l'entreprise avait 11 milliards de liquidités en caisse. 11 milliards. L'État les aimerait bien dans ses caisses à lui. Alors, le problème, ce n'est pas que PSA est en difficulté, c'est d'augmenter encore et encore ses marges en faisant faire la même production par toujours moins de travailleurs. Les dirigeants du groupe et les actionnaires qu'ils représentent, dont la famille Peugeot et ses 3 milliards d'euros de fortune, déclarent la guerre aux travailleurs au nom de leurs profits et en pleine crise, en sachant parfaitement qu'aujourd'hui, la route du chômage mène directement à la misère. Eh bien, ces grands groupes sont prêts à fabriquer des milliers de chômeurs, d'un claquement de doigts. Parce que c'est sans parler des répercussions sur les entreprises petites et moyennes, sur les entreprises de 100, 200, 300 salariés qui sont sous-traitantes. Ce n'est pas qu'on ait à s'inquiéter pour les actionnaires de Visteon ou de Faurecia, mais que va-t-il se passer pour les travailleurs de ces entreprises si les commandes de PSA chutent? Et il ne faut pas non plus oublier toutes les entreprises autour, les entreprises de nettoyage, de sécurité, de restauration, qui acceptent les conditions drastiques des grands groupes, parce qu'au bout du bout, il y a toujours les travailleurs, les ouvriers que l'on peut écraser. Alors, le patronat mène la lutte de classe, et il la mène de façon résolue, avec une violence redoublée. Eh bien, il faut que nous, de notre côté, travailleurs, nous menions aussi la nôtre. Le sort des travailleurs dépend de la lutte de classe et du rapport de force entre les travailleurs et le patronat. Et ce n'est pas l'élection de 2012 dont on nous parle du matin au soir qui changera cela. Parce que tous les gouvernements qui se sont succédés, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, ont toujours laissé les patrons faire ce qu'ils voulaient, quand ils ne prenaient pas pénitence pour eux. Et y compris les gouvernements de gauche, ceux de Mitterrand, ceux de Jospin même, et même quand ils avaient fait des promesses aux travailleurs. Aujourd'hui, il faut reconnaître que nous ne sommes pas embarrassés par les promesses du candidat socialiste. Et que les travailleurs ont peu de risques de se sentir trahis par Hollande, le nouveau champion du Parti socialiste, puisqu'il ne s'est engagé à rien vis-à-vis d'eux. Il n'a rien promis sur les retraites, il ne s'est pas engagé à faire quoi que ce soit contre la dégringolade du niveau de vie des couches populaires, et il n'a rien opposé aux fermetures d'usines, aux licenciements. Sa grande idée, c'est le contrat de génération qui est censé lutter contre le chômage. Vous savez, si un employeur s'engage à garder un travailleur jusqu'à la retraite et qu'en même temps il embauche un jeune de moins de 25 ans, eh bien il sera alors dispensé pendant 3 ans de cotisation sociale sur les 2 salaires. Même Martine Aubry n'y croit pas. Et on peut dire qu'elle en a, elle, de l'expérience en matière d'exonération et de subvention patronale. Alors, pour se justifier, Hollande a expliqué qu'il était normal, dans ce cas, de récompenser le patron. Mais le récompenser, pourquoi? Parce qu'il a besoin de chair fraîche à exploiter? Non, sous couvert de lutte contre le chômage, Hollande se prépare à faire un cadeau au patronat, une subvention directe au profit capitaliste, une de plus. Et le journal patronal Les Échos ne s'y est pas trompé. Il a félicité la campagne des socialistes en écrivant La Lune n'a pas été promise. Eh bien, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, si les travailleurs ont toutes les raisons d'exécrer Sarkozy, ils n'en ont aucune, mais alors vraiment aucune, de faire confiance en François Hollande. Primaire, le comble a sans doute été atteint avec cette histoire de démondialisation et de protectionnisme qui sont apparues comme ce qu'il y avait de plus radical à la gauche. Mais ceux qui brandissent la démondialisation ou le protectionnisme comme des solutions nous racontent des histoires. S'il s'agit de dénoncer les capitalistes qui ferment des entreprises pour en ouvrir ou pas dans un autre pays ou même dans une autre région, pourquoi ne pas dénoncer les responsables directs, les licencieurs, les capitalistes eux-mêmes qui licencient pour augmenter leurs profits? Pourquoi montrer du doigt les travailleurs à l'autre bout du monde qui sont nos frères? Ce n'est pas des travailleurs chinois, indiens ou autres qu'il faut nous protéger. C'est des capitalistes, c'est de leur rapacité, c'est de leur diktat. La concurrence internationale dont il faudrait se protéger est organisée par nos propres capitalistes, qui sont les premiers profiteurs de l'exploitation à l'échelle mondiale. Et on retrouve d'ailleurs les mêmes multinationales d'un bout à l'autre de la planète. Alors, dire ou faire entendre que la démondialisation est possible et même souhaitable est une stupidité. Tout est mondialisé, le savoir, les techniques, les capitaux, les idées, la production est mondialisée, les moyens de communication et les moyens de transport sont plus développés que jamais. Et la planète, eh bien, elle est devenue un village. Et c'est heureux, parce que nous sommes une seule et même humanité qui vit sur une même planète. Et Marx l'avait compris dans les années 1840. Alors que la mondialisation n'en était qu'à ses débuts, eh bien, il avait déjà compris que l'humanité allait être fondue dans un sort commun et que plus aucun problème ne pourrait trouver de solution à l'échelle nationale. Eh bien, à sa suite, nous pensons que les travailleurs du monde entier ont les mêmes patrons à combattre et les mêmes chaînes à arracher. Et nous sommes convaincus que l'économie débarrassée du capitalisme sera organisée à l'échelle du monde, qu'elle sera basée, d'une certaine façon, sur la mondialisation, c'est-à-dire sur la mise en commun de ce qu'il y a de meilleur à l'échelle de toute la planète. La démondialisation est la version moderne de la propagande nationaliste qui était, il y a peu, le terrain de prédilection de l'extrême droite. Et bien que ces idées soient aussi véhiculées à gauche, ne changent rien au fait qu'elles sont un poison pour les exploiter. Et dans cette période de crise, il n'est d'ailleurs pas impossible que les États capitalistes en viennent eux-mêmes à remettre en cause les accords commerciaux ou financiers internationaux. Nous allons peut-être revivre une phase de remontée du protectionnisme. Mais souvenons-nous, la dernière fois que les grandes puissances ont opéré ce genre de repli nationaliste, c'était à la suite de la crise des années 30. Et cela a mené à la Seconde Guerre mondiale. Alors personne ne peut dire où nous mènera la crise actuelle du capitalisme. Mais ce qui est certain, c'est que pour la classe ouvrière, il n'y aura d'issue qu'à travers des luttes pour défendre ses intérêts propres et qu'à travers la conscience d'être exploitée à l'échelle du monde et d'être une seule et même classe exploitée. La seule perspective politique valable pour les travailleurs, c'est d'inverser le rapport de force. C'est de ne pas se laisser faire, c'est de rendre coup sur coup. Il n'y a pas de raccourci électoral. Parce qu'il n'y a pas, il n'y a jamais eu de sauveur suprême pour les travailleurs. Tout ce que les travailleurs ont obtenu, ils l'ont arraché au patronat, par leur grève, par leurs manifestations. La seule façon d'arrêter les coups portés à la classe ouvrière, c'est une explosion sociale, où des millions de travailleurs se mettent en mouvement et qui fassent craindre à la bourgeoisie de perdre non seulement beaucoup d'argent, mais aussi son pouvoir sur les entreprises. Nous avons la conviction que les attaques du grand patronat contre les travailleurs, que la provocation des riches et de leurs porte-paroles en tout genre finiront par provoquer cette explosion sociale. Quand, où et comment les luttes se déclareront, nous ne le savons pas. Et il serait vain de broder à ce propos. En revanche, nous avons tout intérêt à ce que le jour où cela arrive, nous soyons prêts. Et se préparer, eh bien, c'est discuter de nos revendications, c'est fixer des objectifs qui nous unissent tous, par-delà la situation individuelle des uns et des autres, par-delà notre branche professionnelle ou notre catégorie. C'est de discuter des objectifs dans lesquels les travailleurs en activité, ceux qui ont été poussés au chômage, ceux qui sont à la retraite et même les jeunes qui galèrent de petit boulot en petit boulot, peuvent se reconnaître. Parce que la colère ou même la détermination ne suffiront pas pour inverser le rapport de force. Il faut aussi que les travailleurs aient une politique, qu'ils sachent où ils veulent aller, pour quels objectifs on peut se battre. Sans quoi, il y aura toujours des charlatans pour nous emmener vers des impasses et à plus forte raison, vers des voies qui sauvent la mise à la bourgeoisie. Il faut qu'il soit clair pour tous que les dégâts de la crise seront inévitablement payés. Et si les travailleurs ne veulent pas que la bourgeoisie et ses dirigeants politiques la leur fassent payer, il faut contraindre les possédants à payer. C'est eux ou c'est nous. Et tous les responsables politiques qui prétendent venir en aide aux exploités, mais sans s'en prendre aux exploiteurs, à leur profit, à leur fortune, sont des menteurs. Oui, il faudra faire payer la bourgeoisie. Nous avons à protéger nos seuls moyens d'existence, nos emplois et nos salaires. Et il faut les défendre, bec et ongles, en imposant l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous les bras disponibles, sans diminution de salaire. Même dans cette période de crise, de récession, de dépression, peu importe le nom qu'on lui donne, il y a toujours du travail, même s'il y en a moins. Eh bien, il faut le partager entre tous. Et ce ne serait pas bien compliqué. On pourrait, dans beaucoup d'entreprises, commencer par réintégrer les intérimaires, les stagiaires, qui connaissent très bien le travail. Et on pourrait alors diminuer les cadences de chacun, rajouter des temps de pause, diminuer les horaires de chacun. Et puis on pourrait créer des postes dans les hôpitaux, dans les écoles. Au lieu de fermer des usines, des bureaux ou des services, et de concentrer le travail sur ce qui reste, il faut répartir le travail entre tous. On ne peut pas accepter que ceux qui ont un travail croulent sous la charge, alors que de plus en plus de bras sont condamnés à l'inactivité, au chômage. Il faut forcer le patronat à embaucher. Bien sûr, cela coûtera de l'argent. Mais les exploiteurs ont l'argent pour cela. C'est précisément parce que cet argent est aujourd'hui détourné vers les opérations financières que la société crève. Alors cet argent, eh bien, il serait mille fois mieux utilisé à des embauches et au paiement des salaires. Nous devons aussi imposer des augmentations de salaires et des pensions de retraite et leur indexation sur les prix. Et sur les prix que nous mesurerons par nous-mêmes, par en bas, au jour le jour. Le gouvernement explique que le SMIC est aujourd'hui indexé sur l'augmentation des prix. Mais ce n'est pas vrai, parce que l'inflation qu'il mesure officiellement est en dessous de la réalité. Par exemple, cette mesure ne prend en compte le poids du loyer que pour 7% des dépenses, alors que dans la plupart des familles ouvrières, c'est plutôt 20, 30, 40% des dépenses. Alors, il sera plus que nécessaire de contrôler les prix par nous-mêmes et d'imposer que les salaires et les retraites les suivent automatiquement. Les patrons capitalistes, ou plus exactement leurs serviteurs politiques, expliqueront que tout cela n'est pas possible, qu'il y a la concurrence internationale et que cela risquerait de les ruiner. Eh bien, qu'ils rendent donc public leurs comptes. pas leurs comptes officiels, destinés au fisc complaisant, mais les comptes où figure tout ce qu'ils versent aux actionnaires, tout ce qu'ils consacrent à des opérations financières, c'est-à-dire à la spéculation. Et on verrait alors qu'ils ont de quoi non seulement assurer l'emploi de tous les travailleurs, mais qu'ils ont même de quoi augmenter les salaires de tous. Les capitalistes cachent leur course au profit privé et leur dangerosité pour toute la société derrière le secret des affaires. Alors il ne faut pas les laisser prendre leurs décisions dans le secret des conseils d'administration, sans le moindre contrôle, sans même la moindre transparence. Pour pouvoir les empêcher de faire leur sale coup en cachette, il faut lever le secret industriel et le secret bancaire. Aujourd'hui, un salarié, un cadre, même s'il est au courant d'un projet contraire aux intérêts des travailleurs, de la société ou de l'environnement, a interdiction de le dévoiler. Et bien voilà pourquoi des travailleurs sont les derniers avertis quand ils sont licenciés. Voilà pourquoi, quand une entreprise pollue, voire empoisonne la population, celle-ci ne l'apprend qu'une fois que le mal est fait. Eh bien, il faut changer cela. Et il faut supprimer cet interdit. C'est l'intérêt des salariés, mais c'est aussi l'intérêt de bien d'autres catégories populaires. C'est l'intérêt de toute la société. Bien sûr, supprimer cette loi qui punit actuellement tous ceux qui rendent public les mauvais coups qui se préparent derrière le secret des affaires ne fera pas tout. Elle ne fera que créer les conditions légales d'un contrôle de la population. Mais pour que ce contrôle soit effectif, il faudra encore la volonté des travailleurs de le prendre en main, de s'organiser, de se mobiliser pour cela. Mais la suppression du secret des affaires sera un premier pas qui, nous l'espérons, sera suivi de bien d'autres pour contester la dictature du grand capital. Voilà quels sont les objectifs vitaux pour le mouvement ouvrier. Nous ne le répéterons jamais assez, mais nous savons que ces objectifs ne peuvent être réalisés qu'au prix de luttes déterminées, massives, mobilisant la majorité du monde du travail. Mais c'est la seule issue. Et je me présente dans cette élection pour défendre cette politique, ce programme qui est un programme de lutte pour les travailleurs. Aucun autre candidat ne le met en avant. Et même ceux qui se targuent d'être plus radicaux sont trop respectueux du marché, de la concurrence et des profits capitalistes, de la propriété capitaliste pour le faire. Leurs différences politiques correspondent surtout au fait qu'ils visent des électorats différents. Mais ce ne sont que des nuances qui ne remettent pas en cause les inégalités, les injustices du système capitaliste et qui ne remettent pas en cause l'exploitation. Alors, il n'y a aucune raison de laisser dans cette campagne électorale le monopole de la parole à tous ces dirigeants qui se disent de gauche et qui s'accommodent d'un ordre social aussi injuste et d'une organisation économique aussi stupide. Non, l'avenir de l'humanité ne peut pas être le règne des pros, de l'exploitation, de la concurrence, des inégalités et des injustices. La société capitaliste est une maison de fous où les crises sont déclenchées parce qu'il y a trop d'argent à un pôle de la société, parce qu'il y a trop de production par rapport à ce que la population peut acheter. Et ce trop-plein de richesses, eh bien, il va dans la finance, dans la spéculation, qui finit par étouffer toute l'économie. Le capitalisme est une économie qui s'étouffe dans sa propre graisse. Nous n'avons jamais eu autant de moyens pour construire vite et bien. Mais il manque de plus en plus de logements pour les classes populaires. Plus on peut faire circuler les connaissances et le savoir, moins il y a d'éducation. Et plus on a les moyens de soigner les maladies graves et même de réussir des prouesses médicales, et moins les gens se soignent. Et aujourd'hui, on est capable de produire de la nourriture pour deux fois la population de la planète. Mais il y a 12 millions de femmes et d'hommes qui sont affamés dans la Corne de l'Afrique. Alors, À tous ceux révoltés par le gâchis de cette société capitaliste, nous disons que l'avenir appartient aux travailleurs, à leur lutte et au communisme. Et je voudrais, dans cette campagne électorale, m'adresser spécialement aux jeunes. Pas seulement parce qu'ils sont les principales victimes de cette crise, mais parce que c'est de la société future dont je parle, la société où ils vivront. C'est peut-être aujourd'hui que se décide ce que sera la société dans 10, 20 ou 30 ans. Les années à venir dépendent de notre capacité à réagir, à nous défendre, à nous battre, à nous organiser aujourd'hui. La dernière crise, équivalente à celle que nous vivons, la crise des années 30, a entraîné des luttes puissantes de la classe ouvrière. Celle de 1936 en Espagne, celle de 1936 en France. Mais toutes ces luttes, eh bien, elles ont été défaites. Et la société capitaliste a alors montré qu'elle était capable de la pire réaction, de la pire barbarie, avec la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, l'histoire ne se répète jamais de la même façon. Mais voilà où la crise du capitalisme peut nous amener, si nous ne sommes pas à la hauteur. Alors, chacun a le choix de lutter pour un monde meilleur, qui utilise les ressources dont dispose l'humanité pour satisfaire les besoins de tous, et pas seulement ceux d'une minorité rapace. Au lieu de l'individualisme de la société actuelle, il y a la solidarité, la force collective des travailleurs et de tous les exploités. Et au repli nationaliste, voire xénophobe, il faut opposer l'internationalisme, c'est-à-dire la conviction que les travailleurs du monde entier ont les mêmes intérêts et que les barrières sont que les frontières sont des barrières artificielles que l'on dresse entre les uns et les autres pour le plus grand profit des possédants. À tous ceux qui ne se résignent pas, nous disons qu'il y a un autre avenir, celui d'une société débarrassée des inégalités de classe et réorganisée sur des bases communistes. Bien sûr, la transformation de la société n'est pas l'enjeu de cette élection présidentielle. Et elle ne peut pas surgir des urnes, pas plus de celle de l'élection présidentielle que d'aucune autre élection. La transformation révolutionnaire de la société ne pourra résulter que de l'activité consciente des masses exploitées, révoltées par leurs conditions d'existence et décidées de prendre le mal à la racine. Mais à une toute autre échelle, il en va de même du programme de lutte que j'ai exposé ce soir. Aucun vote ne pourrait l'imposer. Mais cette campagne électorale, eh bien, elle nous donne la possibilité de le défendre et de préparer politiquement les travailleurs pour les luttes à venir. Et cette campagne, eh bien, elle nous donnera un peu plus accès aux médias. Mais il ne faut pas se faire trop d'illusions. Ce moyen ne pèsera pas lourd face au matraquage médiatique en faveur du point de vue des possédants. Et il ne faut pas s'en étonner. Depuis toujours, le mouvement ouvrier a dû se donner ses propres moyens pour propager sa propre politique. Et parmi ces moyens, eh bien, il y a l'activité des militantes et des militants, de celles et ceux qui sont dans leur camp et qui partagent ces idées. Alors, nous comptons sur vous tous qui êtes ici pour propager ces idées autour de vous, pour en parler et pour nous aider dans cette campagne électorale. Si l'élection présidentielle peut contribuer à faire connaître plus largement nos idées et à les populariser, eh bien ce sera un pas considérable pour préparer la suite qui se déroulera là où tous les changements se décident, c'est-à-dire dans les entreprises, dans la rue et en tout cas dans les luttes.